Chapitre 9 à 11. Les voies dispensationnelles de Dieu. Introduction. Dans la première partie de l'Épître, tous les hommes, qu'ils soient juifs ou des nations, ont été convaincus par la parole de Dieu d'être sur un même niveau, celui de pécheurs méritant le jugement devant Dieu et sans force pour se sauver eux-mêmes du jugement. Ensuite, il nous a été montré comment Dieu a opéré en justice pour la bénédiction de l'homme par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. La bénédiction ainsi assurée, pour ceux qui croient, est résumée pleinement dans le chapitre 8. Une difficulté surgit toutefois dans l'esprit des Juifs. Cette grâce souveraine qui place tous les hommes à égalité sous le jugement et qui offre la bénédiction à tous, peut paraître mettre de côté les promesses spéciales faites à Israël. Il est clair, d'après Genèse 15, 17 et 18, que Dieu avait des propos de bénédiction pour Israël et à travers Israël. Ces propos de bénédiction pour Israël et le monde étaient contenus dans les promesses inconditionnelles faites à Abraham. La question se pose alors, comment est-il possible de concilier la grâce souveraine de Dieu envers tous avec les promesses spéciales faites au Père en faveur d'Israël? Cette difficulté est résolue dans la troisième division de l'Épître du chapitre 9 à 11. Ces chapitres nous présentent les voies de Dieu envers Israël et envers le monde au cours des périodes successives ou dispensations de l'histoire du monde. Ils mettent en évidence la cohérence parfaite de la grâce souveraine de Dieu avec ses promesses spéciales à Israël. Le chapitre 9 prouve que la grâce souveraine de Dieu est la seule base de toute bénédiction, que ce soit pour Israël ou pour les nations. Le chapitre 10 montre que la chute d'Israël ouvre la voie à la grâce souveraine pour bénir les nations. Le chapitre 11 prédit que le rejet de la grâce de Dieu par les nations préparera le chemin pour la restauration d'Israël. Chapitre 9. La grâce, seule base de bénédiction pour tous. Les Juifs non seulement faisaient des objections contre les doctrines de la grâce enseignées par l'apôtre, mais s'opposaient à l'apôtre lui-même. Il disait que l'apôtre enseignait à tous et partout contre le peuple, contre la loi et contre le temple. Acte 21, verset 28. Au chapitre 9, l'apôtre répond à ces objections. Il aborde d'abord la question du point de vue personnel dans les versets 1 à 5. Ensuite, dans le reste du chapitre, il fait face à l'objection selon laquelle la grâce de Dieu envers tous rendrait nulles les promesses spéciales faites à Israël. Il prouve clairement que, si chaque promesse sera accomplie, ce sera sur la base de la grâce. Versets 1 à 5. Citation de l'Écriture. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. Car moi-même, j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses, auxquels sont les pères et desquels selon la chair est issu le Christ qui est, sur toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Fin de citation. Quant à lui, loin d'être contre ses parents selon la chair, il avait une grande tristesse et un chagrin continuel à leur égard. Verset 2. En effet, le souhait avait traversé son esprit que lui-même soit séparé par anathème du Christ, verset 3, s'il était possible par ce moyen d'apporter la bénédiction à Israël. Par ailleurs, comment pourrait-il considérer légèrement ceux à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la loi, les services, les promesses, verset 4, et surtout ceux de qui, selon la chair, provient Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement, verset 5. Ce n'était pas Paul qui faisait peu cas des privilèges d'Israël, mais plutôt les accusateurs de Paul, car n'avaient-ils pas rejeté leur Messie? Comme il le dit à la fin du chapitre, ils ont heurté contre la pierre d'achoppement en rejetant Christ comme n'étant qu'un simple charpentier. Paul, au contraire, maintenait sa gloire, affirmant qu'il est Dieu sur toute chose, béni éternellement. Verset 6. Citation de l'Écriture. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Fin de citation. Après avoir répondu aux attaques personnelles, l'apôtre fait la démonstration que la grâce souveraine de Dieu, en s'occupant des nations, ne rend pas sans effet la parole de Dieu, qui avait donné des promesses spéciales à Israël. Paul avait enseigné que tous, juifs ou gentils, ou non-juifs, reçoivent la bénédiction sur la base de la grâce souveraine. Immédiatement, les juifs objectaient que cet enseignement niait les promesses qui leur sont destinées sur la base de la descendance naturelle. À cette objection, l'apôtre répond que ce ne sont pas tous ceux qui sont d'Israël par descendance naturelle qui sont le vrai Israël de Dieu à qui les promesses ont été faites. Il se tourne alors vers l'Écriture pour prouver son affirmation. Versets 7 à 9. Citation de l'Écriture. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Fin de citation. Il en appelle d'abord à l'histoire d'Abraham. Dans ce cas, il était clair que, si les Juifs insistaient sur la descendance naturelle, ils devaient admettre les Arabes dans la bénédiction, car ils étaient les descendants d'Abraham par Ismaël. Genèse 25, versets 12 à 18. Dès lors, le principe de la descendance naturelle était exclu. Avec Isaac, nous voyons donc la bénédiction assurée sur le principe de l'élection de la grâce souveraine, car la parole dit « En Isaac te sera appelée une semence ». Ismaël était l'enfant de la chair, mais Isaac l'enfant de la promesse. Que cette promesse ait été faite selon la grâce souveraine, cela est rendu tout à fait manifeste par la parole « En cette saison-ci je viendrai, et Sarah aura un fils ». Versets 10 à 12. Citation de l'Écriture. Et non seulement cela, mais aussi, quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'Isaac, notre père, car avant que les enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit « Le plus grand sera asservi au plus petit. » Fin de citation. L'apôtre passe ensuite à l'histoire d'Isaac et prouve le même principe par ses deux fils. En rapport avec Abraham, un juif pouvait objecter que les fils étaient de mères différentes. Mais aucune objection de ce genre ne pouvait être soulevée dans le cas des fils d'Isaac. Jacob et Ésaü étaient tous deux fils de Rebecca. Si donc la bénédiction était par descendance naturelle, la semence des deux fils devait hériter des promesses, et dans ce cas, les Juifs devraient inclure les Édomites, ce qu'aucun Juif ne voudrait faire. Ici encore, la descendance naturelle est exclue, et la bénédiction est sur la base du choix souverain qui a dit « Le plus grand sera asservi au plus petit ». En outre, cela avait été dit avant leur naissance, et donc avant qu'il n'ait rien fait de bon ou de mauvais, prouvant que l'appel souverain de Dieu ne dépend pas des œuvres de celui qui est appelé, mais de la grâce de celui qui appelle. Verset 13. Citation de l'Écriture. Ainsi qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Fin de citation. De plus, de longs siècles après leur temps de vie, et après que leur caractère se soit développé, Dieu avait dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Jacob, avec ses nombreuses fautes, était un homme de foi, et il fut béni sur la base de la grâce. Ésaü, avec de nombreuses qualités naturelles, n'eut aucune crainte de Dieu et manqua la bénédiction, quoiqu'il fût le fils aîné par descendance naturelle. Versets 14 et 15. Citation de l'Écriture. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Fin de citation. À ces arguments, la chair pourrait objecter que choisir l'un et pas l'autre est injuste. Y a-t-il alors de l'injustice en Dieu? Absolument pas, dit l'apôtre. Pour répondre à cette objection, l'apôtre fait référence à un épisode particulier de l'histoire d'Israël où il est clair que Dieu a agi dans sa grâce souveraine et ne pouvait pourtant pas être accusé d'injustice. Il rappelle le terrible péché d'Israël quand ils firent un veau d'or et l'adorèrent. L'injustice de cet acte est indiscutable. Ils avaient violé le premier commandement et la punition était la mort. La justice aurait pu les faire tous périr. Mais que fit Dieu? Il eut recours à sa souveraineté et a dit « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Dieu a eu recours au principe même contre lequel les Juifs s'insurgeaient, mais sans lequel tout Israël aurait été détruit. Il est dès lors impossible pour les Juifs de dire qu'il était injuste de la part de Dieu d'agir en grâce souveraine. Verset 16. Citation de l'Écriture. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Fin de citation. L'apôtre montre ainsi que la bénédiction n'est pas en rapport avec la volonté de l'homme ou avec son activité, mais elle dépend entièrement de la grâce souveraine de Dieu qui fait miséricorde. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Car l'Écriture dit au Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Fin de citation. Une autre objection pourrait toutefois être soulevée. Certains pourraient dire « Nous pouvons voir qu'il n'y avait pas d'injustice dans l'épisode d'Israël et du veau d'or, quand Dieu a utilisé sa souveraineté pour bénir. Mais qu'en est-il quand Dieu agit en jugement ?» Pour répondre à cette objection, l'apôtre prend le cas du Pharaon pour montrer que Dieu n'est pas injuste dans le jugement. En mettant en place le veau d'or, Israël avait agi méchamment et Dieu avait exercé la miséricorde dans sa souveraineté. Le Pharaon a également agi méchamment et Dieu l'a jugé. Où est la souveraineté de Dieu dans ce cas? N'est-elle pas dans le fait qu'à de multiples reprises Dieu a agi en miséricorde souveraine en arrêtant les plaies? Mais cette miséricorde est devenue l'occasion pour le Pharaon d'endurcir son cœur. Voir Exode 7, versets 13 et 22, Exode 8, versets 15, 19 et 32, Exode 9, verset 7. Finalement, le Pharaon ayant endurci son cœur, nous lisons que « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon ». Exode 9, verset 12. Dieu n'a pas créé le Pharaon méchant. Dieu ne conduit personne à pécher. Mais quand le Pharaon s'est avéré méchant et obstiné, Dieu a judiciairement endurci son cœur. Cet endurcissement, cependant, n'a jamais eu lieu tant que l'homme ne s'est pas avéré méchant. L'homme naturel déchu, tel que décrit en Romains 1, se détourne premièrement de Dieu avant que Dieu ne se détourne de lui. De même avec Israël, la nation avait entendu ce que l'Éternel avait fait entendre, Ésaïe 53, verset 1, et avait vu le bras de l'Éternel, Jean 12, verset 38, et avait rejeté à la fois ses paroles et ses œuvres avant que la parole ne leur soit appliquée. Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Jean 12, verset 37 à 41. Il en sera de même avec la chrétienté. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 10 et 11. Il est donc vrai que, soit qu'il agisse en miséricorde souveraine, soit qu'il agisse en jugement, Dieu agit selon sa volonté. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dans les deux cas, il agit avec justice. Versets 19 à 21. Citation de l'Écriture. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Mais plutôt, toi, ô homme, qui es-tu, qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase à honneur et un autre à déshonneur? Fin de citation. Quelqu'un dira alors, si tel est le cas, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Si Dieu endurcit un homme, comment l'homme peut-il lui-même s'en sortir? Et comment Dieu peut-il se plaindre de l'homme? La première réponse de l'apôtre à cette objection est très péremptoire. Il demande « Qui es-tu pour contester avec Dieu ?» En supposant même que tu ne comprennes pas, Dieu a-t-il des comptes à te rendre? Nous devons nous souvenir que nous ne sommes que des hommes et que Dieu est Dieu, et nous faisons bien de lui donner sa place comme Dieu. Dieu est celui qui forme. L'homme est la chose formée. Et la chose formée se plaindra-t-elle à celui qui forme? Pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas un pouvoir absolu sur l'argile, soit pour en faire un vase à honneur, ou, s'il le veut, pour en faire un vase à déshonneur? L'apôtre établit ainsi le droit absolu de Dieu d'agir comme il veut, sans avoir à rendre compte de ses actions à l'homme. Néanmoins, alors que l'illustration du potier affirme de la manière la plus forte le droit absolu de Dieu de faire ce qu'il veut, cette illustration n'enseigne pas que Dieu ait fait aucun vase à déshonneur. L'illustration affirme simplement les prérogatives de Dieu et les maintient. Versets 22 et 23. Citation de l'Écriture. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Fin de citation. La manière dont Dieu utilise ce pouvoir absolu se voit dans ses actions envers les vases de colère et les vases de miséricorde. Quant aux vases de colère, il est dit en vérité qu'ils sont tout préparés pour la destruction, mais il n'est pas dit que Dieu les a préparés pour la destruction. Il a fait connaître sa puissance, non pas en les préparant pour la destruction, mais en les supportant avec une grande patience. En ce qui concerne les vases de miséricorde, il est dit qu'il les a préparés d'avance pour la gloire. Dieu a supporté les Amoréens d'autrefois avec beaucoup de patience, jusqu'à ce qu'ils se soient préparés eux-mêmes pour la destruction par leurs iniquités parvenues à leur comble. Alors seulement, le jugement est tombé. Genèse 15 et 16. Verset 24. Citation de l'Écriture. Lesquels aussi il a appelés, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Fin de citation. Les vases de miséricorde sont vus dans ceux qui sont appelés en grâce souveraine par l'Évangile, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Une fois qu'on admet que toute bénédiction repose sur la souveraineté de Dieu, les nations doivent être admises à la bénédiction aussi bien que les Juifs. Versets 25 et 26. Citation de l'Écriture. Comme aussi il est dit en Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », là ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Fin de citation. L'apôtre prouve son argumentation en se tournant vers les propres écritures des Juifs. Au verset 25, il cite Osée 2, verset 23, pour montrer l'appel des Juifs, alors qu'au verset 26, il cite Osée 1, verset 10, pour montrer l'appel des nations. Versets 27 à 29. Citation de l'Écriture. Mais Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. » Et comme Ésaïe a dit auparavant, « Si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé quelques semences, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. » Fin de citation. Ensuite, l'apôtre cite le prophète Ésaïe pour montrer que, aussi nombreux que le peuple d'Israël ait pu être, seul un résidu a été sauvé, est sauvé et sera sauvé. Que ce résidu ait été épargné, est, a été ou sera entièrement dû à la grâce souveraine de l'Éternel. Car le prophète dit « Si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé quelques semences, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. Sans la grâce, ils auraient été totalement détruits. » Versets 30 à 33. Citation de l'Écriture. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice. La justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que ce n'a point été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres. Car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute. » Et « Celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Fin de citation. L'apôtre résume son argument en montrant que les nations ont obtenu la bénédiction sur le principe de la foi, tandis qu'Israël a manqué la bénédiction en la recherchant sur le principe de la loi. Se confiant dans leur propre justice, ils ont refusé la grâce et rejeté celui qui est venu en grâce et en humilité. Ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, à savoir Christ dans l'humilité.